Pardon, 9h10 à Port-au-Prince, et c'est l'heure de retrouver Marion Kazanov pour le journal d'Haïti et des Amériques.
Merci Juliette, bonjour à toutes et à tous.
C'est un voleur et un assassin, il ne peut pas rester au pouvoir, il est comme Pinochet, c'est un assassin.
Et les Chiliens, à un mois des élections législatives et présidentielles, 2 ans après un mouvement de contestation massif et avec la réécriture en ce moment d'une nouvelle constitution. Reportage à Santiago en deuxième partie d'édition. À la une également la pénurie d'essence qui menace. En Haïti, les transporteurs entament une grève aujourd'hui, mais cela fait des mois que l'approvisionnement rencontre des difficultés. On parlera également de la suite de la tournée d'Anthony Blinken en Amérique latine. Lui et le président colombien s'affiche tout sourire en allié solide. Et puis nous irons du côté des Caraïbes pour le journal de l'Outre-mer. Serge Massot, vous nous parlerez de la présence d'experts de l'UNESCO en Martinique. Ils viennent évaluer son inscription sur la liste du patrimoine mondial.
Et on embarquera avec eux sur le bateau à la découverte de la montagne pelée des pitons du Carbet.
Et merci Serge, à tout à l'heure.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Comme tous les jeudis, on retrouve en Haïti Franz Duval du Nouvelliste pour décortiquer l'actu haïtienne. Bonjour Franz.
Bonjour Marion.
Haïti est au bord de la panne sèche pour plusieurs raisons ce jeudi. La première, c'est qu'il y a un appel à la grève des transporteurs de produits pétroliers. Quelles en sont les raisons ?
Alors, les transporteurs de produits pétroliers ont lancé une grève parce que c'est un secteur indépendant. Ils lancent la grève parce que les camions qui transportent l'essence des terminaux aux stations d'essence subissent des attaques répétées des gangs qui sont installés autour de Port-au-Prince. Quand la cargaison n'est pas volée, le camion est volé. Quand la cargaison et le camion ne sont pas volés, le chauffeur est retenu, kidnappé. Et les propriétaires doivent payer pour récupérer le chauffeur, pour récupérer le camion et perdre la cargaison d'essence. Cela arrive très souvent, il est très difficile de faire le parcours entre les terminaux où se trouvent stockés les produits pétroliers et les stations d'essence qui sont disséminées en Haïti, aussi bien à la capitale, mais aussi hors de la capitale, car les camions se font attaquer maintenant partout. L'essence est devenue une denrée rare, l'essence se vend très cher au marché noir. Alors les cargaisons sont devenues la cible d'attaque et c'est pour protester contre tout ça que les transporteurs ont lancé un mot d'ordre de grève ce matin.
Et les propriétaires de stations essence aussi se plaignent. Ils disent que les produits pétroliers n'arrivent pas dans les stations essence. Est-ce que c'est à cause de cette grève, justement ?
C'était bien avant la grève. La grève n'arrive que ce matin. Bien avant, c'est l'insécurité qui souvent empêchait aux camions d'arriver aux stations d'essence. Mais c'est aussi le fait que l'État haïtien n'arrive pas à acheter suffisamment de stocks pour desservir tout le pays. Haïti importe quasiment la moitié de ses besoins et par mois, et il y a toujours une pénurie, il y a toujours une tension sur les stocks d'essence. C'est toute la chaîne qui se plaint. Les grossistes se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas sortir la marchandise de leurs terminaux. Les transporteurs se plaignent parce qu'ils sont attaqués. Et les stations d'essence aussi se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas vendre, il n'y a pas de stock.
Et dans le même temps, Franz, le Nouvelliste explique aujourd'hui que les finances publiques haïtiennes subventionnent les produits pétroliers.
Tout le problème vient de là. Haïti subventionne non seulement la consommation des produits pétroliers, mais le gouvernement subventionne aussi pour la population la consommation d'énergie électrique. Ce sont des vannes ouvertes pour Haïti. On dépense beaucoup d'argent et de plus en plus, on achète de moins en moins d'essence. Cela provoque la pénurie et tous les autres problèmes qui suivent. Mais cela provoque aussi les difficultés de l'État haïtien pour faire des investissements dans d'autres secteurs. Ça fait des jours que les stations d'essence n'ouvrent pas et que les Haïtiens perdent des heures à essayer de trouver quelques gallons d'essence dans les rues.
Et le Nouvelliste revient également sur la situation en Haïti dans un éditorial intitulé « Voir un pays mourir ».
17 étrangers ont été kidnappés, un nombre indéterminé d'Haïtiens ont été kidnappés depuis samedi. Le gouvernement n'a absolument rien dit. Un policier est mort en service en essayant de déjouer un kidnapping. La police ne s'est pas prononcée sur la question. C'est toute une série d'événements qui se sont produits ces derniers jours et le Nouvelliste finit par dire qu'on est en train d'assister à la mort d'un pays. C'est aussi simple que ça l'éditorial de ce matin dans le Nouvelliste.
Autre sujet aussi, Franz Duval, un sommet se tient en Colombie pour débattre des flux migratoires haïtiens et on s'étonne justement de l'absence d'Haïti.
Là encore, c'est l'histoire d'un pays qui se meurt. Toute l'Amérique latine est en train de se réunir pour prendre des décisions en ce qui concerne Haïti, pour voir comment gérer les flux migratoires de ces Haïtiens qui sont sur toute l'Amérique latine qui essaient de remonter vers les États-Unis. Haïti n'a pas été invité. Haïti n'a rien fait pour être présente non plus à cette réunion, à ce sommet qui se tient en Colombie. Et c'est l'histoire d'un pays qui ne peut même plus assumer ses responsabilités ni à l'interne ni à l'externe. C'est ça la photo d'Haïti ce matin dans le Nouvelliste.
Merci Franz Duval. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du Nouvelliste. On vous retrouve comme tous les jeudis avec nous sur RFI. Merci beaucoup.
RFI, la radio del mundo.
Et la crise migratoire qui touche la Colombie, notamment avec ses milliers d'Haïtiens, on en parle dans votre revue de presse. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
Mais d'abord, revenons sur la visite, toujours en Colombie, du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Christophe, il a rencontré hier le président Iván Duque.
Oui, pour ce premier dialogue direct entre le chef de l'État colombien et le gouvernement Biden, depuis son arrivée au pouvoir il y a 9 mois, note El Colombiano, le secrétaire d'État américain n'a pas tari d'éloges. Blinken à Duque, la Colombie est la pierre angulaire de l'hémisphère sud pour les États-Unis, c'est le titre. Même son de cloche côté colombien, note le journal qui cite Iván Duque, ces 30 dernières années, la Colombie a fait de grandes avancées sur différents fronts grâce à l'appui des États-Unis. Les deux hommes, détaillé le Tiempo, ont parlé promotion de la démocratie dans la région, politique de paix, droits humains, changement climatique et pandémie, entre autres. Pour ce qui est des droits humains, Las Dos Orillas s'est procuré ce document que Blinken a amené à la réunion avec Duque. L'ONG Human Rights Watch lui a envoyé une lettre 2 jours avant son arrivée, dénonçant plusieurs problèmes dans l'accord de paix, l'augmentation de la violence dans le pays et lui demandant de condamner les violences policières constatées pendant la grève nationale. Le président colombien l'a très mal pris, accusant Human Rights Watch de vouloir profiter de la visite de Blinken qui, de toute façon, ne répondra aux pressions de personne.
Et ce qui est certain, c'est que Anthony Blinken, lui, était là pour parler crise migratoire que connaît le continent.
D'ailleurs, souligne Le Spectador, le secrétaire d'État américain est venu en Colombie pour participer à la réunion ministérielle sur ce sujet, réunion qui s'est ouverte ce mercredi avec plusieurs pays de la région. Le cas au Venezuela est le sujet central de la rencontre, souligne El Tiempo, d'autant que, rappelle Le Spectador, selon les chiffres du président, la Colombie a accueilli 1 800 000 Vénézuéliens. Et là aussi, note El Tiempo, Anthony Blinken a félicité Duque pour le décret qui permet aux Vénézuéliens de rester 10 ans en Colombie, louant tout simplement un modèle pour la région et plus largement pour le monde. El País rappelle que le gouvernement chaviste n'est reconnu ni par Bogota ni par Washington.
Et justement, Christophe, est-ce que les relations entre les deux pays pourraient évoluer?
C'est à la une d'Ultimas Noticias, le journal vénézuélien proche du pouvoir. Le Venezuela et la Colombie cherchent à renouer leurs relations. Le Sénat de Colombie a proposé à l'Assemblée nationale la création de commissions pour normaliser leurs relations, une dans chaque pays. Une demande soutenue par le président Nicolas Maduro, souligne El Periódico de Quito. Le journal rappelle que la Colombie avait été un des premiers pays à reconnaître au printemps 2019 le chef de l'opposition, Juan Guaido, et le Venezuela avait rompu les relations. Mais maintenant, les deux pays doivent résoudre leurs problèmes dans la paix et normaliser leurs relations, affirme Nicolas Maduro, cité par El Universal. Seulement, voilà, Iván Duque a déjà répondu et c'est non. Je ne vais pas reconnaître une dictature corrompue et narcotrafiquante, citation en titre d'El Nacional. Ce qui ne l'empêche pas, souligne El Universal, d'être en faveur de la réouverture des frontières et de faciliter la situation des Vénézuéliens.
Et puis au Brésil, à présent le président lourdement accusé pour sa gestion catastrophique de la pandémie. Elle a fait plus de 600 000 morts dans le pays. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire a été publié hier. Cette commission demande l'inculpation du président brésilien pour 10 crimes, notamment celui de crime contre l'humanité. À Rio de Janeiro, les accusations formulées dans le rapport n'ont pas surpris Sarah Cozzolino.
Dans le bar d'Eduardo, la radio est branchée sur les dernières actualités. Comme le dénonce le rapport de la CPI, il estime lui aussi que Jair Bolsonaro est responsable de la gravité de la crise.
Je pense que le gouvernement a beaucoup négligé la pandémie. Le président n'a pas voulu porter de masque, il a encouragé les gens à ne pas en porter et c'était très mauvais, on a donné un très mauvais exemple au peuple.
La diffusion de fausses informations, les retards dans la vaccination, Gabriela n'est pas surprise, elle non plus, des accusations contre le gouvernement.
Je n'en attendais pas moins du gouvernement, mais je trouve ça vraiment triste. Et ce qui est encore plus triste, c'est qu'à la fin, les vrais responsables ne seront pas jugés.
Si la destitution du président est certes peu probable, la prochaine élection présidentielle s'annonce tendue. Pour Geraldo, Jair Bolsonaro est une fois de plus victime d'une grande machination politique.
Ce qu'ils veulent, c'est trouver quelque chose pour l'empêcher de se présenter à l'élection, c'est tout. Mais il n'y a rien, il n'y a pas plus innocent que Bolsonaro. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été prouvé contre Bolsonaro. Rien, rien, rien.
Le rapport devrait surtout avoir des conséquences politiques alors que Jair Bolsonaro est au plus bas dans les sondages. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
On vous retrouve, Christophe Paget, pour la fin de votre revue de presse. Le Salvador n'autorisera pas l'avortement thérapeutique.
Les députés ferment la porte à la légalisation de l'avortement thérapeutique. C'est la une de Contrapunto. Le Salvador, rappelle le journal, est un des quatre pays d'Amérique latine qui interdit l'avortement sans aucune exception, avec le Nicaragua, le Honduras et la République dominicaine. La réforme demandait la dépénalisation dans trois cas, détaille Diario Colatino, pour sauver la vie de la mère, quand le fœtus n'est pas viable, ou dans le cas de viol d'enfants, d'adolescents et de femmes. Mais ce sera donc non, malgré les demandes des organisations de défense des droits de l'homme. 73 députés sur 84 ont voté contre la proposition de réforme, souligne la Prensa Grafica, qui rappelle que c'est la quatrième fois depuis 1988 que ce congrès à une chambre refuse de dépénaliser. El Mundo se fait l'écho des députés qui ont voté contre. Il parle de génocide. Certains demandent des peines plus lourdes contre celles qui avortent. Actuellement, plus de 40 femmes purgent des peines de 10 à 30 ans de prison pour avoir avorté, explique Contra Punto. Au Salvador, un pays de 7 millions d'habitants, chaque année, 25 000 femmes se retrouvent enceintes après avoir été violées et des milliers d'avortements clandestins sont réalisés. La Cour interaméricaine des droits de l'homme a demandé que les peines de ces femmes soient réexaminées sans succès.
Merci Christophe Paget, c'était la revue de presse des Amériques. On vous retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Direction le Chili, à présent, à un mois, pile, des élections législatives et présidentielles. Elles interviennent 2 ans après une mobilisation sociale massive contre les inégalités. Et alors qu'une nouvelle constitution est en train d'être réécrite, l'actuelle est héritée de la dictature de Pinochet. Le président sortant, lui, ne peut pas se présenter à nouveau. Il est sous le coup d'une procédure de destitution après le scandale des Pandora Papers. Notre correspondante, Justine Fontaine, a rencontré des Chiliens qui manifestaient en début de semaine pour l'anniversaire des 2 ans de la contestation sociale. Reportage.
Ce lundi, à Santiago, des dizaines de milliers de personnes ont commémoré le 2e anniversaire du mouvement social d'octobre 2019. Andrea Briceño, la quarantaine, est venue avec toute sa famille protester contre les inégalités profondes qui persistent dans le pays. Elle reprend des slogans contre le président actuel, le milliardaire de droite Sébastien Piñera, mis en examen pour corruption après avoir été cité dans le scandale des Pandora Papers.
C'est un voleur et un assassin. Il ne peut pas rester au pouvoir. Il est comme Pinochet. C'est un assassin.
Car sous son gouvernement, explique-t-elle, le mouvement social a été durement réprimé. Aujourd'hui, elle n'est convaincue par aucun des candidats à l'élection présidentielle. Mais Evelyne, une autre manifestante, votera, elle, pour Gabriel Boric, un ancien leader étudiant de gauche, car ce jeune député est le plus favorable aux mouvements sociaux et au travail de l'Assemblée constituante, dit-elle.
Je pense que parmi les candidats, il est celui qui a le plus de conscience sociale et répond le mieux à ces dynamiques.
Gabriel Boric est pour l'instant donné favori du scrutin. Plus au centre, une sénatrice démocrate chrétienne, Yasna Provosté, espère bénéficier des difficultés d'un troisième candidat, Sébastien Sichel, soutenu, lui, par la coalition de droite au pouvoir. Antoine Maillet est chercheur en sciences politiques. Il enseigne à l'Université du Chili.
Sébastien Sichel, le candidat de l'actuel président, Sébastien Piñera, même s'il essaie de ne pas se montrer proche de lui, parce que Sébastien Piñera a une popularité extrêmement basse, encore plus basse maintenant avec les Pandora Papers qui l'ont directement mentionné. Et il a une campagne qui est en chute libre actuellement.
Et celui qui semble profiter le plus de cette situation est le candidat d'extrême droite José Antonio Kast, qui participait à une conférence ce mardi dans la très conservatrice Université des Andes, où il a été reçu chaleureusement. La majorité des étudiants sur le campus vont voter pour lui, explique Isabella, 21 ans. Ancien sénateur, José Antonio Kast avait fait 8% à la présidentielle de 2017. Et pendant sa campagne, il avait déclaré « Si Pinochet était encore en vie, il voterait pour moi ». Une phrase qui ne dérange pas Juan Andrés Rosales, rencontré sur le campus. Il soutient aussi l'idée du candidat de creuser une tranchée à la frontière nord du Chili pour empêcher l'arrivée de migrants latino-américains.
Je trouve que ce serait une bonne chose, car le Chili est en train de se remplir de beaucoup de gens qui viennent d'autres pays et qui nous prennent notre travail. Donc, cette proposition est importante pour le Chili.
José Antonio Kast joue aussi sur la peur concernant les réformes économiques et sociales proposée par la gauche. Voici ce qu'en pense Juan Andrés.
Gabriel Boric veut qu'on ressemble au Venezuela, c'est ce que laisse penser sa campagne.
Pour le chercheur Antoine Maillet, deux principaux défis attendent le ou la future présidente. L'immense défiance des Chiliens envers la classe politique et puis la transition annoncée vers une nouvelle constitution. Un président de droite ou d'extrême droite pourrait mettre des bâtons dans les roues de l'Assemblée constituante. Un ou une présidente de gauche, au contraire, tenterait probablement de favoriser l'adoption de la nouvelle constitution qui s'annonce plus proche d'un modèle social-démocrate. Justine Fontaine, Santiago, RFI.
Un reportage à réécouter sur notre site rfi.fr. J'ajoute que le second tour de l'élection présidentielle au Chili est prévu le 19 décembre. L'Assemblée constituante, majoritairement de gauche, a elle encore près de 8 mois pour rédiger une nouvelle constitution et qui sera ensuite soumise à un référendum.
Le journal de l'Outre-mer.
Un journal présenté par Serge Massot. Bonjour Serge.
Bonjour Marion.
À la une aujourd'hui de votre édition, la Martinique est qui postule pour être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Oui, et depuis le début de la semaine, des experts de l'UNESCO sillonnent les sentiers des forêts, des volcans, de la montagne Pelée, des pitons du Carbet. Ils évaluent la candidature de la Martinique au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et hier, ils étaient en mer, au large du Prêcheur et de Grand-Rivière. Écoutez ce reportage de Christine Cupit.
Après avoir survolé la montagne Pelée et les pitons du Carbet, les experts mandatés par l'UNESCO les découvrent depuis la mer. D'autres spécialistes des volcans et de la biodiversité les accompagnent. Georges Boudon, volcanologue.
Ce type d'explosion donc, est unique dans le monde puisqu'on ne retrouve pratiquement pas sur d'autres volcans donc, ce type d'explosion. Et la particularité de la montagne Pelée aussi, c'est que ces explosions sont répétitives. En 1902, on a eu 7 explosions de ce type.
Les pitons du Carbet aussi ont un caractère exceptionnel.
On a une multitude de pitons, puisqu'on a 11 pitons dans cette grande structure, donc ça représente une valeur aussi universelle pour ces pitons du Carbet.
La candidature de la Martinique au patrimoine mondial de l'UNESCO concerne non seulement les volcans, mais aussi la forêt, de la Pelée et des pitons du Nord. Jean-Pierre Fiard, spécialiste de la biodiversité.
Partout à la Martinique, mais aussi dans les autres petites Antilles, il n'y a nulle part une continuité forestière sauvage de cette exubérance du sommet des montagnes, 1400 mètres, jusqu'au niveau de la mer.
Jusqu'à la fin de la semaine, les experts de l'UNESCO vont procéder à des évaluations de terrain. La candidature de la Martinique sera examinée en juillet 2022.
Le cancer de la prostate reconnu comme maladie professionnelle agricole, c'est l'annonce du ministre de l'Agriculture hier, qui doit encore prendre un décret en ce sens. Une annonce qui ouvre la voie à une prise en charge des ouvriers agricoles victimes du chlordécone dans les Antilles, mais qui ne règle pas tout, selon Josiane Jospelage. C'est la présidente de l'Association médicale de sauvegarde de l'environnement et de la santé. Elle est au micro de Catherine Gonnier-Cléon de Martinique la Première.
C'est très bien pour les ouvriers agricoles qui ont un cancer de la prostate et qu'ils soient reconnus maladie professionnelle. Mais pour ce combat que nous avons commencé à mener pour la reconnaissance du chlordécone, c'est une petite avancée. Il y a aussi d'autres pathologies liées au chlordécone. Si je me souviens bien, quand le président de la République est venu en Martinique en septembre 2018, il avait promis d'ouvrir le dossier chlordécone dans le champ des maladies professionnelles et pas le cancer de la prostate précisément. Donc il reste toutes les autres maladies qui sont liées au chlordécone. Donc c'est une grande avancée pour qui s'est reconnu, mais pour ceux qui se battent pour la reconnaissance du chlordécone et des pathologies liées au chlordécone, c'est une toute petite avancée.
Et puis sachez qu'en Guyane, les dépôts pétroliers ont été débloqués ce matin par un important dispositif de gendarmerie. Il n'y a donc plus de risque de pénurie d'essence. Et en Guadeloupe, à partir de samedi, le pass sanitaire s'impose dans les restaurants dès le premier client. Le couvre-feu sera lui repoussé de 22h à 23h dès demain. C'est la fin de ce journal. Bonne journée sur RFI.
Merci Serge Massot, bonne journée à vous aussi. Et ainsi s'achève ce journal des Amériques et d'Haïti. Vous pouvez nous retrouver à tout moment sur notre site rfi.fr et puis pourquoi pas nous suivre sur Twitter @RFIAmérique. Merci à Valentin Alves à la réalisation, à Véronique Guémard à la rédaction en chef. On se retrouve demain à la même heure, 13h10, en temps universel pour une nouvelle édition.